Est-ce que vous vous êtes déjà amusé à calculer combien de temps vous restiez assis ou allongé sans bouger pendant une journée, ou depuis combien de temps vous n'aviez pas chaussé vos baskets pour une longue promenade? Le constat est simple, aujourd'hui nous bougeons de moins en moins. Les études montrent que les comportements sédentaires favorisent de nombreuses maladies et sont associés à une diminution de l'espérance de vie. Nous sommes pourtant nés pour bouger, pour marcher ou pour courir, et notre corps est conçu pour le mouvement. Comment justement la sédentarité se glisse dans nos vies? Quelles en sont les conséquences? Eh bien, c'est le dossier de la tête au carré, avec vos questions, vos témoignages, dès maintenant, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Observer les océans à travers les yeux des oiseaux marins pour mieux les protéger, une idée originale. Aujourd'hui à la Une de la Science, Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, oui, des scientifiques français et japonais ont suivi des colonies de footbassans à l'aide de GPS et de caméras embarquées dans leurs plumes. Des données précieuses pour parler préservation marine avec les pêcheurs, on en parle dans un instant à la Une.
Et c'est Stéphanie Texier qui réalise notre tête au carré, préparée aujourd'hui par Dylan Beiner.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les dangers de la sédentarité, donc, c'est dans quelques minutes dans notre dossier avec un cardiologue François Carré, un ostéopathe kinésithérapeute Sam Cohen. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue. François Carré, l'espérance de vie, on va d'ailleurs le voir tout à l'heure dans les brèves, ne cesse d'augmenter dans le monde. Pourquoi alors est-ce qu'il faudrait s'inquiéter de nos habitudes de vie qui sont de plus en plus sédentaires ?
Peut-être tout simplement parce qu'on parle toujours de l'espérance de vie de façon brute, mais ce qui serait plus intéressant de parler de l'espérance de vie en bonne santé. Et là, les chiffres ne sont pas aussi optimistes.
Et là, le bas blesse, comme on va le voir avec vous. Sam Cohen, est-ce que les effets de cette sédentarité se voient concrètement sur notre squelette?
Oui, malheureusement, tous les jours en cabinet, on voit ça. On voit le vieillissement osseux, la fonte musculaire, les troubles de l'équilibre qui causent beaucoup de fractures par an. Il y a à peu près 50 000 fractures du col du fémur par an. Et puis après, les troubles, bien sûr, cardiovasculaires, digestifs et tous les problèmes psychologiques que ça entraîne.
Tout ça n'est pas terrible, donc effectivement, comme bilan, on en parle avec vous dans quelques minutes et avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Observer les océans et les réserves de poissons à travers les yeux des oiseaux pour mieux les protéger et gérer donc les écosystèmes marins, eh bien c'est cette méthode nouvelle que vous proposez Amélie Lécroël. Bonjour à vous.
Bonjour Mathilda.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes écologue au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier. Vous avez donc équipé une colonie de footbassins, de caméras et de GPS pour suivre leur quotidien pendant 4 ans. Vous allez nous décrire ça dans un instant. Hervé Kempf est également avec nous. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Avec notre partenariat avec Reporter.net. Alors Hervé, justement, se servir des oiseaux pour sensibiliser aux problèmes de la pêche, c'est plutôt original hein, comme démarche.
Oui, tout à fait. Et puis ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas du tout envie d'être sédentaire, mais d'aller rêver avec ces oiseaux magnifiques qui migrent sur des milliers de kilomètres. Le plus grand oiseau marin vivant en Europe, notamment en Bretagne, on va le voir. Et ces oiseaux extraordinaires qui peuvent migrer de la Bretagne jusqu'au sud de l'Afrique et qui font des fulgurantes descentes au-dessus de l'océan. Ce sont des voleurs au sens des voiliers, plus exactement, hors pair, des pêcheurs hors pair. Et voilà. Ils sont un instrument, un objet d'observation et de connaissance de l'écosystème marin, tout à fait nouveau comme on va le voir.
Amélie Lescroël, donc c'est un gros travail que vous avez mené avec des collègues japonais. Combien d'oiseaux est-ce que vous avez suivi au total ?
Alors, pendant les 3 années en fait du projet, on a équipé 60 oiseaux de GPS, d'enregistreurs GPS pour suivre leur déplacement en mer. On a aussi équipé une vingtaine d'oiseaux de caméras et une soixantaine d'oiseaux aussi de géolocateurs, des enregistreurs de lumière miniaturisés qui nous permettent de les suivre dans leur migration jusqu'en Afrique de l'Ouest.
Et justement, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce suivi au quotidien de ces oiseaux qui voyagent énormément ?
Alors, ce qui nous intéresse, c'est que ces oiseaux, c'est de véritables passeurs de frontières. C'est des passeurs de frontières écologiques. Ils font le lien entre la terre et la mer, entre le milieu aérien et le milieu sous-marin. Et ce sont aussi des passeurs de frontières politiques. C'est-à-dire, ils se fichent un peu des unités de gestion traditionnelles. Ils nous permettent d'appréhender les océans de manière globale, c'est-à-dire et de dépasser la dichotomie entre air protégé et air non protégé.
Ah, alors justement, Amélie Lécroël, quand vous dites que vous équipez ces oiseaux de ces équipements, est-ce que c'est lourd pour eux ? Ça représente quoi concrètement sur leur plume ?
Alors non, c'est pas très lourd. Un enregistreur GPS, c'est moins de 20 grammes et les caméras miniaturisées qu'on utilise font autour de 40 grammes. Donc on reste bien en deçà des 3% de la masse corporelle de l'oiseau qui sont utilisés en général comme seuil.
Alors vous avez récolté les données, puis vous avez montré les résultats aux pêcheurs, aux représentants d'État, aux industriels. Quels étaient ces résultats et comment ont réagi toutes ces personnes ?
Voilà, alors c'est ça. En fait, notre pari, notre grand pari, c'était de se dire que les oiseaux marins, ils pouvaient servir de support aux discussions et aux échanges de savoir entre acteurs. D'abord parce que ce sont des animaux visibles, de grande taille, qui sont très présents dans le quotidien des habitants du littoral et qui ont un rapport, si vous voulez, différent avec les différents groupes d'acteurs du milieu marin. Ça peut être une source de nourriture pour les chasseurs en Europe du Nord, une composante écologique pour les scientifiques, une ressource économique pour les professionnels du tourisme ou parfois un compétiteur pour les pêcheurs. Et l'intérêt aussi de ces oiseaux, c'est que donc ils sont assez gros pour être équipés et qu'on en tire des données qui sont extrêmement visuelles, des cartes de trajet, des vidéos. Et en fait, on a réuni à deux reprises l'ensemble des acteurs du milieu marin et on les a invités à venir travailler avec nous sur les interactions entre oiseaux marins et activités humaines. Au cours de ces ateliers, on leur a présenté les cartes de trajet en mer des fous de bassin, l'évolution d'année en année et des vidéos qui étaient enregistrées par les oiseaux de leurs interactions avec les bateaux de pêche.
Et justement, sur ces cartes, vous croisez les hommes, sur ces vidéos, vous croisez les bateaux de pêche ?
On croise les bateaux de pêche, oui. Oui, oui. On voit les oiseaux qui viennent se nourrir. En fait, sur les oiseaux qu'on a équipés, on en avait 43% qui venaient se nourrir derrière les chalutiers. Et on a pu interpréter ces images avec les pêcheurs. Et c'était assez intéressant d'avoir des réactions très spontanées sur ces images. Alors sur les cartes de GPS, je me souviens d'avoir projeté cette carte avec les oiseaux qui avaient besoin d'aller très très loin, plus loin que d'habitude en 2014. En 2013, pardon. Et les pêcheurs s'étaient exclamés, mais cette année, c'est normal, il n'y a rien nulle part. On rame, ils rament aussi.
Ouais. Pourquoi avoir suivi des fous de bassin plutôt que des goélands, des pélicans ou d'autres oiseaux marins qu'on peut trouver le long de nos côtes ?
Alors, on a fait le choix des fous de bassin pour de nombreuses raisons. Alors d'abord, ce sont des oiseaux de grande taille que les gens identifient bien, donc qu'ils voient bien dans leur milieu quotidien. Ensuite, ce sont des oiseaux qui sont très dépendants des stocks de poissons pélagiques, qui sont une composante très importante des océans, donc ça nous intéressait aussi. Ce sont des oiseaux qui couvrent de grandes distances. Donc les oiseaux qui nichent à Rouzic dans les Côtes d'Armor, ils vont se nourrir depuis dans l'ensemble de la Manche en fait. Ils commencent même à en sortir. Voilà. Et puis c'était des oiseaux effectivement qu'on suit aussi depuis 2005 et pour lesquels on a beaucoup de recul et beaucoup de matière en fait pour discuter avec l'ensemble des acteurs.
Alors justement avec ces moyens d'observation privilégiés, est-ce que vous avez fait des découvertes aussi ? Est-ce que ces oiseaux vous ont appris des choses que vous ignoriez ?
Alors oui, ils nous ont appris pas mal de choses. D'abord qu'ils ne se contentaient pas de se nourrir des déchets ou des rejets de pêche, hein, qui font l'objet d'ailleurs d'une modification de la politique commune des pêches, mais qui venaient aussi se nourrir directement autour du filet. Et ensuite, deuxième découverte, ça a été de comprendre en fait que si on les protégeait, c'était bien de protéger leur colonie de reproduction en France, mais qu'ils allaient aussi en hiver se nourrir en Afrique de l'Ouest, là où nos propres pêcheries, les pêcheries de la communauté européenne, viennent pas mal attaquer les stocks de pays qui n'ont pas forcément les moyens de se protéger de manière légale. Enfin, disons que leur arsenal juridique ne leur permet pas de se protéger assez. Et en fait, nos fous de bassin peuvent être en danger sur leur zone d'hivernage en lien en fait avec des captures accidentelles dans les engins de pêche.
Justement, est-ce que l'espèce des fous de bassin se porte bien ? C'est l'impression qu'on avait, mais est-ce que c'est toujours vrai ?
Alors, l'espèce en elle-même se porte bien. Après, la colonie, la seule colonie que nous avons en France dans les Côtes d'Armor, montre des signes un peu inquiétants ces dernières années en termes d'allongement. Alors, avant, ils restaient juste en Manche Ouest. Maintenant, on les retrouve. Ils vont jusqu'en Manche Est et jusque dans l'Atlantique pour aller se nourrir. Et on pense qu'il y a un problème avec les stocks de poissons pélagiques en ce moment. On voit aussi que l'épaisseur de leur muscle pectoral qu'on mesure par échographie a diminué ces trois dernières années. Donc, on est en train de chercher la cause de ces signes inquiétants.
Amélie Lescroël, est-ce que ces résultats et ces discussions dont vous parliez vous ont amené à imaginer des solutions, que ce soit pour les poissons ou pour les oiseaux avec les professionnels ?
Alors nous, ce qu'on pense, alors il y a plusieurs choses. D'abord, on a deux perspectives en fait à ce projet. D'abord, une perspective scientifique qui va être de développer le moyen de décrypter en fait le signal GPS, en fait leur localisation en mer, pour savoir quand est-ce qu'ils se nourrissent derrière les bateaux ou pas, et de pouvoir suivre cette évolution de la dépendance aux pêcheries, parce que ça veut dire qu'en termes, à chaque fois qu'il y aura une modification de la politique des pêches, ça pourra avoir un impact sur ce type d'oiseau. Mmh. Et une deuxième perspective plus opérationnelle, avec, on espère, le soutien de la Fondation de France bientôt, qui sera d'opérationnaliser un peu ce dispositif et de créer des espaces d'échange intersectoriels, donc entre pêcheurs, scientifiques, gestionnaires, naturalistes, des espaces d'échange qui utiliseraient les oiseaux marins comme support des discussions, qui faciliteraient la connaissance des uns et des autres, le dialogue, les collaborations, et on espère ainsi déclencher une dynamique collective et pouvoir travailler tous ensemble plutôt que dans l'opposition sectorielle.
Est-ce que ces fous de bassin vous ont appris certaines choses sur le réchauffement climatique ?
Alors pas encore, mais il se peut, pour l'instant on se pose toujours la question de, voilà, si les oiseaux ont du mal ces trois dernières années, est-ce que c'est sans doute à cause d'une diminution de la disponibilité en poissons pélagiques, sardines, maquereaux, tout ça. Et la question, c'est de savoir s'il y a un problème au niveau de la ressource en termes de quantité, éventuellement un problème de surpêche, ou si c'est plutôt un déplacement des stocks dû au réchauffement. Mais ça
voilà.
Encore à déterminer.
Comment les scientifiques font bosser les fous de bassin, et puis évidemment avec ces observations extrêmement intéressantes. Merci Amélie Lescroël. Et puis Hervé,
merci,
on retrouve sur reporter.net un article sur le sujet, j'imagine.
Et beaucoup d'articles sur les océans qui nous passionnent.
Merci Hervé, à la semaine prochaine et à demain Axel.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'espérance de vie mondiale en nette augmentation selon l'OMS. Entre 2000 et 2015, elle a augmenté de 5 ans. En moyenne, une femme née en 2015 peut espérer vivre 73,8 ans contre 69 ans pour les hommes. Cette hausse spectaculaire est due au progrès en matière de survie de l'enfant, ainsi que dans la lutte contre le paludisme ou le VIH. Cependant, bien que les conditions de vie se soient améliorées dans les pays en développement, il subsiste encore de grandes inégalités sanitaires dans le monde. L'espérance de vie dans certains pays développés atteint 80 ans contre moins de 60 ans dans les pays d'Afrique subsaharienne fortement atteints par la tuberculose, le VIH, le paludisme et l'accès limité à l'eau potable. Des dents en guise d'épines. Pour la première fois, des chercheurs ont trouvé du phosphate de calcium dans les poils urticants de végétaux issus de la famille des Loasacées, présente dans les Andes d'Amérique du Sud. C'est une découverte étonnante puisque cette substance minérale dure se retrouve généralement dans les os et dans les dents. Selon une étude publiée dans Nature, ces minéraux renforcent les trichomes des poils urticants servant à repousser les herbivores. La plupart des plantes utilisées, eh bien justement, se servent de la silice ou du carbonate de calcium comme biominéraux structurels, mais les scientifiques ne savent pas encore pourquoi cette plante échappe à cette règle. Si vous avez toujours voulu admirer l'éclat rougeoyant de Mars, eh bien c'est l'occasion en ce moment. Pendant quelques semaines encore, dès la nuit tombée, eh bien le ciel nous offre la possibilité de contempler la planète rouge brillant d'un éclat fixé orangé. Phénomène qui intervient tous les 26 mois environ, lorsque la Terre et Mars se rapprochent l'une de l'autre et s'alignent avec le Soleil. Cette fois-ci, les deux planètes sont éloignées d'une distance de 75 millions de kilomètres, nous laissant la possibilité d'observer l'astre à l'œil nu. Un instrument astronomique est tout de même conseillé pour espérer percevoir quelque chose à la surface de la planète. Allez, les dangers de la sédentarité, c'est le dossier dans un instant. It's killing.
as you see me, as you see me now. All my guns are down. The walls around me all came tumbling down. I am here with you. As you see me now. I've surrounded now. This burden on my mind.
Miss It All, Jan Haddad.
La tête carrée sur France Inter.
Les effets de la sédentarité sur notre santé, c'est le dossier de l'émission avec mes invités François Carré et Sam Cohen. François Carré, vous êtes cardiologue, médecin du sport, professeur en physiologie cardiovasculaire au CHU de Rennes. Vous êtes cofondateur de l'Observatoire de la sédentarité. Et vous êtes l'auteur d'un livre qui était sorti en 2013. On en avait parlé justement à l'époque. On avait envie de faire le point un petit peu avec vous trois ans plus tard. Danger, sédentarité, vivre plus en bougeant plus. C'est aux éditions du Cherche Midi. Et puis Sam Cohen, vous êtes également avec nous. Vous êtes ostéopathe et kinésithérapeute. Vous pratiquez à Paris, et les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé, la TAC. François Carré, nous autres bipèdes, ben visiblement on en fait de moins en moins, moins d'activité physique, et récemment les cardiologues se sont même inquiétés de la perte de capacité cardiovasculaire des enfants. On aura l'occasion d'en reparler avec vous. La diminution régulière de l'activité physique dans l'ensemble de la population, ça vous inquiète franchement là aujourd'hui ?
Ah oui, je crois que c'est très inquiétant. Pour nous, c'est devenu vraiment un problème de santé publique qui va jouer d'abord sur la prise de poids, et on voit avec l'explosion de l'obésité dans nos populations. Et puis, il y a un deuxième facteur aussi où ça intervient beaucoup, c'est sur le vieillissement de la population. On va être confronté à ces deux problèmes, obésité, vieillissement de la population, et on sait que dans les deux cas, la sédentarité aggrave les choses. Alors que l'activité physique les minore. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et pour nous, ça nous inquiète beaucoup, les médecins, oui.
Avec des impacts économiques également très importants.
Bien sûr,
on aura l'occasion d'en discuter, parce que ça coûte cher de ne pas bouger, visiblement, à la société. Sam Cohen, en tant qu'ostéopathe et kiné, est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, de manipuler des corps qui ne bougent plus assez ?
Oui, parce que les consultations se sont multipliées ces dernières années. Hein, je crois qu'il y a à peu près 2 à 3 millions de consultations en ostéopathie en France. Ça fait des dégâts énormes. Il faut rappeler l'étymologie de ce mot sédentarité. Ça vient du latin sedere, qui veut dire être assis. Alors nous sommes assis plus de 12 heures par jour, hein, entre le bureau, la vie à la maison, la voiture, les transports en commun. Donc ça crée des dégâts considérables sur la posture et surtout les problèmes locomoteurs.
Ouais, donc ce que vous dites à vos patients, c'est tout simplement de bouger.
Alors avant de leur dire, je les invite à venir consulter avant de reprendre une activité physique, de façon à faire un diagnostic, un bilan ostéopathique précis. Et puis il va falloir en fonction de leur hérédité, leur morphologie, leur vie socio-professionnelle, les accompagner pour reprendre progressivement une activité physique.
Ouais. Voilà. Mais c'est compliqué pour certaines professions, justement, hein, François Carré, dont le principe est d'être assis, pour le coup, toute la journée.
Oui, vous avez raison. D'ailleurs, ça nous arrive régulièrement d'être sollicité par des entreprises pour essayer de résoudre ces problèmes. Alors, ça dépend un petit peu de la volonté des responsables de ces entreprises, mais il y en a beaucoup qui commencent à se poser effectivement des questions, puisque je pense que M. Cohen y est souvent confronté. Il y a aussi tous ces troubles musculo-squelettiques qui sont à l'origine des positions répétitives au travail. Et il y a quand même des petites choses. Je pense que même dans son bureau, on peut faire en sorte d'essayer de lutter contre ces troubles un petit peu quand même.
Ouais. Sam Cohen, vous voyez les muscles fondre vraiment au fil des décennies ?
Oui. Moins vous les utilisez, plus ils fondent. Pour bien comprendre, aujourd'hui, entre 20 et 30 ans, la masse musculaire correspond à peu près à 45% du poids du corps.
Ouais.
À 70 ans, elle diminue de moitié, elle est à 27%.
Ah ouais.
Voilà, donc ça c'est avec toutes les conséquences que ça a sur le squelette, sur le mouvement et sur l'équilibre du corps.
Une drôle de question de Valérie, mais j'ai envie de la vous poser, François Carré, même si c'est un petit peu en marche peut-être de notre dossier, mais pourquoi la médecine humaine, demande Valérie, ne s'inspire-t-elle pas des plantes? Ce sont les organismes les plus sédentaires qui soient, et pourtant elles sont beaucoup plus résistantes, alors que les stress qu'elles subissent sont bien plus importants. Ce sont aussi parmi les espèces qui ont la plus grande longévité. Alors, on parle souvent de biomimétisme, parce qu'on devrait s'inspirer des plantes pour en apprendre un peu plus.
C'est une question intéressante à laquelle je ne m'étais pas posé la question, mais c'est vrai que les plantes sont très sédentaires et ont des espérances de vie. Alors, je pense que, et ça permet de rebondir un petit peu sur ce que l'on disait auparavant, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les plantes, comme les hommes, ont un génome, c'est-à-dire des gènes qui vont faire fonctionner l'organisme. Le génome des plantes n'est pas du tout équivalent à celui des hommes, c'est-à-dire que nous avons un génome. Et ce que je pense, ce dont on n'a pas pris conscience, c'est que le génome des anciens fameux chasseurs-cueilleurs qui marchaient des dizaines de kilomètres par jour et le nôtre n'a pas changé. La sédentarité s'est installée dans notre vie en 70 ans.
Ouais.
Alors que l'homme a évolué sur des centaines de milliers d'années. Donc il est normal qu'avec une agression aussi brutale et sur un temps si bref, on n'ait pas pu s'adapter. Donc pour les plantes, ça fait peut-être, elles se sont adaptées peut-être pendant très longtemps. Mmh. Elles n'ont pas été confrontées à ce changement brutal auquel nous avons été confrontés.
Nos ancêtres, les chasseurs-cueilles, ils marchaient combien à peu près? On a une idée à peu près?
Ils faisaient à peu près 16 km par jour, ils marchaient.
Hein. Ouais, estimation, bon, évidemment, moyenne.
Moyenne, absolument. Et il fallait aller chercher la nourriture à l'époque. Hein. Il n'y avait pas de transport, de train, d'avion, de voiture. Hein. Donc tout se faisait à pied. Hein. C'était...
Mais nos grands-parents marchaient aussi beaucoup, François
Carrière.
Oui,
nos grands-parents marchaient beaucoup plus puisqu'on estime qu'ils faisaient à peu près, on va dire, 4 à 5 heures d'activité physique par jour. Alors bien sûr, ils n'en avaient pas le choix, ça leur était imposé. Mmh. Et nous avons le choix et malheureusement, on prend ce choix sans s'en rendre compte le plus souvent, de bouger de moins en moins et d'être assis le plus longtemps possible.
Mmh. Juste une anecdote pour vous dire, en 1977, aux États-Unis, on est passé de 10% d'obèses dans la population active à 25%. Savez-vous pourquoi? En 77 seulement, cette année-là.
Je crois le savoir.
Ah bon.
Alors, dites-nous.
Alors, ben oui, parce qu'est arrivée la télécommande sur le marché.
Voilà, absolument. Confirmation tout de suite avec cette publicité de l'époque, d'ailleurs.
Bon, bah.
Alors, tu la changes, cette chaîne? Bravo.
Maintenant, la vie est plus simple avec la télécommande sans fil. On peut éteindre, régler le son, la lumière, la couleur, changer de chaîne sans changer de place. Et tout ça sans fil.
Télécommande sans fil, pour mieux profiter de votre téléviseur et de votre fauteuil.
Aïe, 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 François Carré, l'arrivée de la zapette. Alors ça, c'était en 74 pour cette publicité, mais c'est vrai qu'on a basculé dans un nouveau monde, au fond, hein, avec ses habitudes.
Oui, par exemple, souvent j'emploie la comparaison, puisqu'on est dans la télévision, c'est assez terrible, puisque dans les années 70, les télévisions étaient énormes, les gens étaient minces, aujourd'hui les écrans sont plats, les gens ont pris du poids, ouais. Donc on a évolué dans l'autre sens, qui rejoint un petit peu cette zapette. Mais en fin de compte, on se rend compte... J'ai été très surpris qu'il y ait cet engouement, mais qu'on n'ait rien fait pour essayer de prévenir cette histoire des drives pour la nourriture. Maintenant, dans les supermarchés, vous commandez, vous venez, on vous met ça dans votre coffre, vous descendez même pas de votre voiture. Ouais. Alors qu'au moins, le supermarché nous permettait de faire de l'activité physique. Mmh, parce qu'en plus, avec le marketing, il y a un petit peu tout dispersé, donc on fait beaucoup de tours avant d'arriver à voir ce dont on a besoin. Et là, on va même nous supprimer ça, alors c'est un petit peu inquiétant quand même.
Nous sommes devenus des coachs patatos depuis longtemps.
Oui, on n'a pas rejoint les Américains, mais comme c'est on fait ça. Tout comme eux, on va le rejoindre.
Un gros sofa.
On peut dire que la radio est un média d'avenir, parce que autant on peut bouger en écoutant la radio, faire du jogging, du vélo, autant devant la télévision, on est figé.
C'est plus compliqué, effectivement. Eric demande, est-ce qu'une station de travail debout pourrait être un bon palliatif, justement, à la sédentarité?
Alors, il y a eu des propositions. Il y a même une grande société suédoise qui propose maintenant un tableau à deux positions, assis ou debout. Les premiers travaux qu'on a vus ont montré qu'il semblait que ça ne suffise pas de passer simplement de assis à debout. C'est-à-dire que, outre le fait qu'il faille se lever, il faut faire quelques pas, quelques mouvements. Donc, je dirais, c'est mieux, mais actuellement, il ne semble pas, sur le plan scientifique, que ça ait vraiment prouvé son efficacité. Mais c'est récent, ces études, bien sûr.
L'homme que nous allons entendre dans ce sujet a poussé les choses beaucoup plus loin, justement, extrait d'un reportage de l'AFP en 2014, signé Guillaume Meyer.
Travailler debout et en marchant lentement dans son salon, c'est le choix qu'a fait ce graphiste. Joshua a passé des années à travailler assis 10 heures par jour, jusqu'à ce qu'il se retrouve bloqué par d'intenses douleurs au dos.
Je n'ai que 35 ans et donc j'ai eu un peu peur. J'ai fait pas mal de rééducation et j'ai dû changer mes habitudes. Le plus grand changement que j'ai fait, c'est de ne pas passer autant de temps assis parce que cela aggrave le problème.
Pour soulager son dos, Joshua ne s'assoit donc presque jamais et c'est un choix que font de plus en plus d'Américains. Diabète, maladie cardiovasculaire, mal de dos, selon une étude, rester assis plus de 8 heures par jour augmenterait de 15% le risque de décès prématuré. Et de nombreux médecins tirent donc la sonnette d'alarme. Un message que Bilal a bien reçu. Il passe désormais des heures à travailler debout et les avantages vont selon lui au-delà des simples considérations médicales.
La raison principale qui m'a poussé à travailler debout, c'était la santé. On sait que c'est mieux que de rester assis. Mais maintenant que je le fais depuis quelque temps, je peux vous dire que je suis non seulement plus actif physiquement, mais aussi mentalement. Je suis plus productif au travail, je suis plus alerte et plus concentré.
Voilà, la décision semble un peu radicale, hein. Travailler carrément debout, Sam Cohen, est-ce que vous pourriez le préconiser ?
Je suis tout à fait d'accord avec le docteur Carré. Travailler debout, c'est pas la solution. Je pense qu'il faut alterner. Au Japon, ils le font très bien parce que dans les entreprises, tous les trois quarts d'heure, ils s'élèvent et ils ont 10 minutes d'étirement, de stretching, de contraction musculaire.
Hein. Ouais. On en est loin dans nos entreprises.
On en est loin, c'est un problème de discipline, d'état d'esprit et...
Et de politique.
Hein. Et de politique aussi, absolument.
Mmh. François Carré ? Que pensez-vous de l'initiative de cet homme ?
Oui, bah écoutez, je pense qu'déjà, il avait pris conscience que son mode de vie retentissait sur son mal de dos. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas le cas de tous les patients. Beaucoup de patients pensent que c'est toujours de la faute de leur papa ou de leur maman. La génétique a un rôle important. Or, notre mode de vie dépend de nous et il faut en prendre conscience. Et comme l'alimentation, je crois qu'il ne faut pas toujours reporter sur... on a un papa ou un maman qui ne nous ont pas gâtés, entre guillemets.
Allez, on se retrouve dans un instant avec les questions et les messages des auditeurs.
Ce matin, par habitude, j'ai mis le couvert pour deux. Mon chemin de solitude s'allonge chaque jour un peu. Je me couche en diagonale pour occuper entièrement nos draps froids comme une dalle, nos draps trop grands à présent. Je te supplie de m'adresser d'après la vie, un signe que je te manque aussi. Je te supplie de me répondre même si personne ne répond d'ici, personne ne répond d'ici. La pluie tombe tout l'automne, le soleil brille l'été. Ces banalités m'étonnent que tout puisse continuer et que le temps se déroule, long ruban de jours et d'heures, fleuve indifférent qui coule dans le lit de nos douleurs. Je te supplie de m'adresser d'après la vie, un signe que je te manque aussi. Je te supplie de me répondre même si personne ne répond d'ici, personne ne répond d'ici. Détour d'un carrefour où nous vivions autrefois, j'ai voulu devenir sourd car quelqu'un riait comme toi. Il ne faut pas m'en vouloir, je l'avais presque oublié, ce grelot, ce tintamarre qui dans tes rires tintait. Je te supplie de m'adresser d'après la vie, un signe que je te manque aussi. Je te supplie de me répondre même si personne ne répond d'ici, personne ne répond d'ici.
Je te supplie et la voix d'Alex Baupin, Thierry Dupin pour la programmation musicale de La Tête au Carré. Mes invités, François Carré, justement, cardiologue, et Sam Cohen, ostéopathe et kinésithérapeute, pour parler des dangers de la sédentarité. C'était le titre de votre livre sorti en 2013 en forme de cri d'alarme, hein, François Carré. Rien n'a changé depuis cette date? Nous sommes toujours peu conscients, au fond, de l'importance de l'activité physique dans notre vie quotidienne?
Alors, je ne dirais pas que rien n'a changé sur... D'abord, sur 3 ans, c'est relativement court. Et puis, on voit quand même, il y a des petites choses qui ont changé. Déjà, au niveau de la loi sur la santé, il y a eu un amendement qui porte le nom d'amendement Fourneyron, qui dit que...
On peut prescrire maintenant.
Voilà, qu'on peut prescrire
sport.
L'activité physique, ouais, dans les affections de longue durée. Donc, ça veut dire qu'il y a, de la part des pouvoirs publics, une réelle prise de conscience. Après, cet amendement pose d'autres questions, mais bon, je ne sais pas si c'est le débat d'aujourd'hui. Mais non, j'ai tendance à dire que j'ai peur que la population n'ait pas vraiment pris conscience que, qu'on le veuille ou pas, nous n'avons pas le choix, nous sommes faits pour ça, nous sommes programmés, c'est
pour
ce qu'on
bouger,
sait.
Hein.
Voilà, nous sommes programmés pour être debout et bouger. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, peut-être que dans 500 000 ans, on n'aura plus de jambes. Ce sera l'adaptation, mais pour en arriver là, on aura perdu beaucoup de gens en cours de route.
Oui, Sam Cohen, d'en arriver là quand même.
Il faut savoir, souvent les patients viennent en cabinet et nous disent, vous savez, alors on leur dit, voilà, il faut faire un peu d'exercice physique. Ils me disent, mais oui, mais vous savez, je ne suis pas sportif. On n'a pas besoin d'être sportif pour avoir une activité physique. Là. Le sport, c'est la performance. Hein. Alors il faut nuancer entre avoir une activité physique minimum pour garder l'intégrité de son corps et faire du sport.
Ouais. Regardez François Hollande, il n'est pas spécialement sportif comme ça. Hein. Bon, je ne connais pas son intimité, mais
il est endurant. Hein.
Voilà, il était en visite, ça c'est vrai, à l'INSEP, il n'y a pas si longtemps, en mars dernier, et il avait un objectif très précis pour lutter contre la sédentarité des Français.
À chacune et à chacun d'entre nous, et je me sens forcément concerné, c'est marcher 6000 pas par jour. Et si on s'en tient à cet objectif, eh bien, il sera possible de diviser le nombre de sédentaires par 2. C'est-à-dire, d'ici 10 ans, être capable d'avoir considérablement changé et le rapport à notre propre corps et le rapport aussi à la société.
Voilà, donc les couloirs de l'Élysée doivent être assez réduits parce que le mot d'ordre de l'OMS, c'était pas 6000 pas, justement, comme le préconise François Hollande, mais 10 000, François Carré. Hein.
Oui, c'est vrai qu'il
Comment ça avait été calculé, ça, en gros
Alors, bon, en fait, c'est pas l'OMS qui avait lancé ça. L'OMS, elle parle en temps d'activité physique par jour, 30 minutes d'activité physique, 5 jours par semaine, pardon.
Pour préserver sa santé.
Et voilà, et c'est plus une étude japonaise qui avait donné les chiffres de 10 000 pas, en sachant que ça a été un peu empirique. Et puis on s'est basé un petit peu aussi sur l'activité physique que font les gens en moyenne. Mais il faut savoir
ça fait combien, 10 000 pas à peu près, 8 km, c'est ça?
On va être entre 5 et 8 km, ça dépend un peu de la longueur de nos pas. Et pour les messieurs et pour les dames, ce sera plutôt entre 3 et 5 km à peu près.
Le parc de l'Élysée le permet. Hein.
Oui, alors ça c'est vrai, on peut faire le tour aussi. Mais bon, il y a quelques activités aussi qui nécessitent d'être à son bureau. Mais quand même, 8 km par jour, c'est
oui,
beaucoup,
c'est,
non?
C'est pour ça que je pense que c'est pas un bon message de se dire, si j'ai pas fait 10 000 pas, j'ai rien fait. Non. Moi, ce que je me fais personnellement, ou vis-à-vis de mes patients, c'est que j'essaye de chiffrer avec eux leur nombre de pas, et je crois que c'est important quand on se trouve confronté à ce problème pour prendre conscience de notre sédentarité. Il faut déjà se dire 2 choses. Combien de pas je fais par jour? Ça, n'importe quel smartphone aujourd'hui peut le mesurer. Et puis deuxièmement, combien de temps je passe par jour assis? Alors si je ne sais pas, c'est simple. Prenons combien de temps je passe devant ma télévision par jour. Et déjà, il faut savoir qu'à partir de 3 heures par jour devant la télévision, le risque de cancer augmente. Je parle exprès pas de maladie cardiovasculaire, mais de cancer.
Ouais. Alors, sédentarité, justement, et inactivité, il faut faire attention parce que c'est pas du tout la même chose, hein, effectivement.
Non, comme l'a dit Monsieur Cohen, sédentarité, c'est sédérer, être assis. Inactivité physique, c'est ne pas bouger, ne pas faire d'activité complète. L'un ne va pas avec l'autre. Effectivement, comme vous le dites, plusieurs études ont montré que si on prend des gens qui font, par exemple, 3 heures de sport par semaine, et que dans le reste du temps, ils sont plus ou moins assis, et bien les gens qui sont le plus assis ont la moins bonne qualité de santé par rapport à ceux qui, outre le fait qu'ils font 3 heures par semaine, restent le moins assis possible.
Un message de Swazik concernant le drive dont vous parliez tout à l'heure. Je ne suis pas d'accord, dit-elle. C'est au contraire formidable pour se libérer du temps et en profiter justement pour faire une vraie activité sportive autre que la marche. dans un rayon de supermarché.
C'est un point de vue.
Sam Cohen.
Oui, oui, François Carré. C'est vrai. Alors là, c'est ce que me disent toujours mes patients, et d'ailleurs toutes les études le montrent, tous les gens disent qu'ils n'ont pas le temps de faire d'activité physique. Je suis un peu dubitatif, je vais être un peu brutal, mais les gens, ceux qui me connaissent ne seront pas surpris. On me dit qu'on passe 4 heures par jour en moyenne en France devant la télévision et on n'a pas le temps de marcher 30 minutes. Et ce qui est très curieux, c'est que les gens bougent moins le week-end, alors qu'ils devraient avoir du temps, que pendant le temps qu'ils travaillent.
Ah, alors ça, c'est étonnant.
Donc, je ne pense pas que ce soit le temps qui soit vraiment le grand problème.
Donc, on est plus sédentaire le week-end.
Ah oui, toutes les études montrent que si on compte le nombre de pas, eh bien, on va faire plus de pas dans la semaine que dans le week-end. Et par exemple, on fait plus de pas à Paris que dans certaines villes, dans certaines régions rurales, parce que pour un rien, on prend sa voiture.
Il faut considérablement modifier ses habitudes de vie. Il faut prendre l'escalier à la place de l'ascenseur, aller marcher pour aller chercher faire ses courses. On va vite arriver à aussi 6000 ou 8000 pas. Il y a un travail quand même personnel à faire. Ça peut considérablement améliorer la santé.
Alors justement, on va parler ensuite des impacts sur la santé, parce que là aussi, il y a des études très précises sur certaines pathologies en particulier. Encore quelques questions d'auditeurs. Pierre qui nous dit, est-ce qu'il vaut finalement mieux de faire deux heures de sport par jour intense, en contrepartie d'une immobilité quasi totale le reste du temps chaque semaine, ou juste un peu d'activité physique tous les jours? Alors là aussi, il y a des études très étonnantes sur des femmes d'ailleurs, qui ont été menées, qui peuvent paraître assez contradictoires, sur des femmes qui pourtant ont des activités assez nombreuses dans la semaine, mais qui passent beaucoup de temps devant l'ordinateur.
Oui, donc effectivement, alors pour répondre à notre auditeur, non, il faut prendre l'activité physique comme un médicament. D'ailleurs, c'est une thérapeutique non médicamenteuse pour la Haute Autorité de Santé. C'est-à-dire qu'un médicament, on le prend chaque jour. C'est une erreur de penser que je fais faire 2 heures de sport le dimanche et que tout le reste du temps, je peux être inactif ou assis. Non.
En espérant que ça devienne un plaisir par la suite.
Donc, vous avez entièrement raison. Et c'est vrai que, en fait, l'activité physique, la marche par exemple, dans le cadre du plaisir, quand on a des soucis, moi je dis toujours à mes patients, vous avez déjà essayé en rentrant chez vous d'une journée fatigante, vous allez marcher 10 minutes plutôt que vous asseoir immédiatement devant votre télévision. Vous allez voir, vous serez moins fatigué après 10 minutes de marche, alors que la télévision ne défatigue pas. La marche aide à résoudre les soucis ou les questions qu'on peut se poser. Donc je crois que c'est chaque jour qu'il faut exactement changer son mode de vie.
Roger nous dit, quand on voit l'augmentation du nombre de vélos électriques et autres inventions qui évitent finalement de faire tout effort physique, les traitements contre l'obésité, les kinés ont de beaux jours devant eux.
Merci
Sam
beaucoup.
Sam Cohen, c'est pour votre profession.
Je vous le confirme, tout va bien de ce côté-là.
Mais c'est mieux que rien quand même, un vélo électrique.
C'est mieux que rien, ça dépend comment on le fait. Moi, je prends le cas de Michel Drucker, qui est adepte du vélo. Il a acheté récemment un vélo électrique parce que chez lui, à Igalière, c'est très vallonné.
Donc,
il s'est dossé. Comment ?
Vous connaissez parfaitement la vie privée de Michel Drucker, apparemment.
Je connais un peu. Et ce qui fait que lorsque c'est vallonné, il se met en vélo électrique, et quand c'est plat, il se met en vélo normal et pédale. Voilà.
Bon, donc suivons l'exemple de Michel Drucker.
Oui, 74 ans, c'est bien, non ?
François Carré.
Non, je partage tout à fait ce point de vue. Il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des vélos électriques, ce sont des vélos à assistance électrique. Si je ne pédale pas, l'électricité ne marchera pas, c'est pas une mobilette.
Donc on fait quand même un peu d'effort.
On fait un peu d'effort.
Un peu d'effort physique. La sédentarité fléau sanitaire du 21e siècle, on estime le nombre de personnes qui décèdent justement chaque année du fait de la sédentarité. On arrive à l'estimer, ça, François Carré?
Alors c'est une estimation qui avait été donnée en 2008. Alors on l'a chaque année, mais en 2008 ça a valu de grands débats avec mes collègues et amis tabacologues, puisqu'en 2008 il y a eu plus de décès liés à la sédentarité et à l'inactivité physique qu'au tabac, 5,2 millions dans le monde contre 5,1.
Ouais, mais c'est facile de faire de tels calculs parce que tout ça est quand même multifactoriel.
Non, bien sûr, c'est toujours difficile, on essaye de tenir compte. De toute façon, on sous-estime obligatoirement le nombre de décès liés à la sédentarité et à l'inactivité, puisque la sédentarité favorise l'obésité, on n'en tient pas compte, la sédentarité favorise l'hypertension artérielle, le diabète, donc ça intervient. Retenons quand même que nos amis anglo-saxons qui ont toujours le choc des mots, le slogan actuellement qui fleurit aux États-Unis, c'est « Sitting is the new smoking ».
Ouais.
La situation assise, c'est le nouveau tabagisme.
Ouais. André demande sur Facebook, est-ce que le sport est bon sans limite et est-ce que les compléments alimentaires aident vraiment à la souplesse articulaire?
C'est un petit peu varié comme question. Alors, non, le sport n'est pas indispensable. C'est tout à fait ce que vous a dit Monsieur Cohen. On n'a pas parlé de sport, on parle d'activité physique. On n'en est plus à parler de sport et on n'a pas besoin de faire du sport. On peut très bien simplement faire une marche chaque jour, 3 fois 10 minutes, par exemple, ce qui est en allant par exemple manger à la cantine. On marche 10 minutes avant le repas, on revient, on remarche 10 minutes. C'est quelque chose qui serait efficace pour la santé. Et je suis d'accord avec l'auditeur que le sport de façon trop intense peut poser des problèmes, en particulier articulaires. Mais Monsieur Cohen se connaît ça mieux que moi.
Oui, quand on dit sport sans limite, on sort de la physiologie du corps humain. On sort complètement et là on rentre dans tout un tas de pathologies, arthrose, diminution de la trame osseuse. Et là, y a des dégâts.
On en parle justement dans un instant des différentes pathologies et les études menées à ce sujet autour donc de la sédentarité. Vous poursuivez bien sûr vos envois de messages, franceinter.fr.
Gotta sleep a moment on the road I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do
anything that you ask me to.
I'm your man, la voix de Leonard Cohen sur France Inter.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Pour être en forme.
Dépense-toi bien.
Voilà un message de la chaîne Gilly en direction des jeunes gens, parce qu'ils sont très concernés justement par ces problèmes de sédentarité dont on parle aujourd'hui avec François Carré et Sam Cohen, avec vos messages qui arrivent également sur le site de l'émission. Jérôme nous dit ceci: je crois que les données récentes montrent que l'espérance de vie des Américains commence à diminuer, avec une imputation notamment aux maladies consécutives à nos comportements modernes, dont la sédentarité. Alors c'est vrai qu'on le remarque même en France d'ailleurs, il y a eu des chiffres cette année.
Chez les Américains, François Carré, ça fait quelques années qu'on voit surtout. Tout d'abord, on a vu un plafonnement, donc de l'augmentation de l'espérance de vie. Et puis là, bon, les chiffres qui étaient sortis sur l'année 2015 avaient montré aussi une petite baisse.
Ouais. Ça, c'est quand même très nouveau comme phénomène.
Oui, hein. En sachant que, comme on le dit, et c'est vrai, je pense qu'il faut attendre encore quelques années, parce que ça ne porte pas, il a pu y avoir des événements intercurrents qui puissent expliquer ces chiffres-là. Mais de toute façon... comme les Américains, on sait qu'on fait à peu près ce que font les Américains 10 ans avec 10 ans de retard, ça nous arrivera dans 10 ans, je pense. Si rien ne change, je pense que ça arrivera dans 10 ans. Oui.
Les causes de cette baisse de l'espérance de vie pour les États-Unis, c'est quoi? Obésité?
C'est essentiellement l'obésité.
Essentiellement
l'obésité. Ils se retrouvent devant des problèmes majeurs d'obésité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, leur attaque a changé. Ils font toujours attention, ils font des efforts sur l'alimentation, mais un grand message sur l'activité physique. Michelle Obama a lancé une action
là-dedans.
Let's Move qui s'appelle, et c'est vraiment sur le bouger. Ils avaient oublié le bouger, en fait.
Ouais. Thierry nous dit ceci: qu'est-ce qu'on peut conseiller aux personnes invalidées par de l'arthrose ou plus lourdement et qui voudraient s'entretenir, Sam Cohen?
Tous les sports en apesanteur, ou au semi-apesanteur, la natation, le vélo, et tous les sports qui ne vont pas créer des contraintes de pression sur la colonne vertébrale et sur les articulations. On parle beaucoup de sport, mais moi je dis toujours à mes patients, vous savez, faut revenir aux fondamentaux. La danse et le chant sont deux activités physiques extrêmement efficaces. Quand vous chantez, on a 639 muscles dans le corps humain. Quand vous chantez, vous avez 300 muscles qui sont en activité.
Bien.
Vous voyez ce que je veux dire? La danse est quelque chose de fabuleux, parce que non seulement ça travaille l'équilibre, la coordination, la puissance, la force, mais en plus, ça libère les émotions, si vous voulez. Vous allez en Israël, moi je donne toujours ce cas, en Israël, sur le long de la plage, vous avez tous les 500 mètres des moniteurs de danse, des profs de danse, qui font danser les gens de 7 à 77 ans, en couple ou pas en couple, habillés ou en maillot de bain. Les gens dansent. Il faut revenir à ces activités qui paraissent... vous savez, aller dans une salle et faire du fitness, il y a des fois, il y a une lassitude aussi.
Bon, c'est rock'n'roll, alors. Vos préconisations. Oui. Yann nous dit: suite à de gros problèmes de dos causés par ma sédentarité, je me suis mis à travailler plusieurs heures debout. C'est ce qu'on entendait tout à l'heure dans le reportage. Les résultats sur le dos sont là, mais j'ignore si ça va me faire perdre du poids. François Carré, est-ce que le simple fait de rester debout, ça fait fondre ou pas?
Le fait de rester debout, on va dépenser un peu plus de calories que quand on est assis, mais ça va être minime. Ça ne suffira pas, à mon avis, pour perdre du poids. En sachant que de toute façon, pour vraiment être efficace sur le poids, il faut associer un équilibre alimentaire et faire attention à ce qu'on mange et bouger. Beaucoup de gens se mettent à bouger, et comme ils bougent, mangent plus. Donc effectivement, ceci compense.
Petit problème. Un message là aussi pour engager le public à faire plus d'efforts, c'était sur France 5, à travers une série qui s'appelle « Anime tes vitamines ». Voici une petite chanson.
Anime tes pieds, anime ta tête, anime tes couettes et tes baskets, anime tes genoux, anime tes poux.
Voilà, c'est un programme court diffusé en mars dernier sur France 5. Alors on peut faire de belles chansons, François Carré, pour inciter les gens à se bouger plus. C'est très sympathique, mais c'est loin d'être suffisant. Il faudrait quand même que les politiques aussi fassent des aménagements, et dès l'école quand même, ou dans le système français, on a quand même un nombre d'heures de sport par exemple par semaine qui est très réduit.
Alors effectivement, ça peut paraître réduit, j'avais la même impression que vous, mais... je me suis adressé, j'ai regardé un petit peu à des spécialistes, et en fait, on est parmi les pays européens qui avons le plus d'heures de sport
obligatoire, c'est-à-dire écrite dans les textes. Ouais. Après, ce qui est écrit, est-ce que c'est fait, c'est un autre problème. C'est-à-dire que même dans les pays scandinaves, où il y a une culture d'activité physique, ce n'est pas dans l'école, ce n'est pas des choses imposées, c'est quelque chose qui est important. Mais ceci veut dire aussi qu'il faudrait peut-être aussi que les papas et les mamans prennent conscience aussi que si eux font de l'activité physique, leurs enfants en feront. Les études montrent toutes que moins les parents bougent, moins les enfants bougent. Moins les médecins bougent, moins leurs patients bougent.
Ah oui, c'est un exemple aussi.
Il y a une étude qui l'a montré.
Pour le patient.
Hein. Oui, oui.
Alors, du côté des enfants, il y a quand même des chiffres qui sont assez étonnants et qui parlent beaucoup aussi de notre époque. Les enfants ont perdu près de 25% de leur capacité cardiovasculaire. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette conclusion?
Alors d'abord, c'est une étude qui a été faite par une équipe australienne, donc qui concerne quand même, excusez-moi du peu, 11 millions de collégiens dans le monde, puisqu'ils ont proposé un protocole
Donc la cohorte est quand même de taille.
Et donc ça concerne tous les pays, et donc ils ont montré que en moyenne, la baisse de la capacité physique était d'environ un tiers. Chez dans le pays français, on était plutôt aux alentours de 25%.
Comment ils ont pu l'estimer d'ailleurs? Quelle a été la méthodologie?
C'est simple, en 1971, ils ont fait une mesure de la capacité physique des collégiens, ils l'ont refaite en 2011.
D'accord.
Ils ont comparé entre les deux, il y avait une baisse, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'il y avait pas, c'était le même âge, il n'y avait pas d'autres problèmes a priori, alors peut-être qu'il y avait un peu plus de tabagisme, ça, mais généralement ils s'affranchissent de ce problème-là. Et donc c'est assez ce que l'on voit dans la vie de tous les jours. Moi j'ai régulièrement des patients qui viennent me voir et qui voudraient se remettre à l'activité. Et en discutant avec eux, je leur dis « mais vous allez marcher avec vos enfants ?» Et là ils me répondent « mais attendez, moi si je fais avec mes enfants, c'est eux qui vont me demander de s'arrêter avant moi.
Ouais. »
Aujourd'hui, la capacité physique de nos enfants est moins bonne que la nôtre. Et ça pour nous, on parlait tout à l'heure d'une alerte majeure, nous ça nous fait très peur. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le meilleur marqueur d'espérance de vie en bonne santé, c'est la capacité physique. Si nos enfants ont une moins bonne capacité physique que nous en avions une à leur âge, ça veut dire qu'ils vivront moins longtemps que nous. C'est ça que ça veut dire.
Sam Cohen, ça veut dire que vous avez aussi des patients de plus en plus jeunes qui viennent vous voir aujourd'hui?
Alors, je vais vous étonner, de plus en plus jeunes, ils viennent déjà à 4 jours après l'accouchement. Et alors, c'est très très juste cette étude, parce que vous savez qu'aujourd'hui, la vie professionnelle, les exigences, vous avez 84% des femmes qui travaillent aujourd'hui entre 25 et 49 ans, elles sont pressées de reprendre leur activité professionnelle. Elles ne veulent pas non plus allaiter parce que pour pas détériorer leur physique et leur poitrine. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des enfants, si vous voulez, qui ont des problèmes crâniens, des problèmes des os de la face, parce que prendre le sein développe beaucoup plus facilement les muscles du visage que le biberon. Voyez.
Ouais. Enfin, il y a aussi des femmes qui ne souhaitent pas allaiter parce qu'elles souhaitent tout simplement retrouver une activité professionnelle.
C'est exactement ce que je vous ai dit. Ouais. Absolument, tout à fait. Ils reprennent au bout de 3 mois, donc ça ne laisse pas place à ça. Et puis alors, effectivement, vous savez que maintenant les enfants aujourd'hui ne se déplacent même plus chez les uns et chez les autres, ils jouent en réseau, ils jouent avec les tablettes, avec les smartphones, et ce qui fait qu'il n'y a plus de jeux de société, de jeux de plein air, et on se retrouve avec effectivement une diminution de la capacité cardiaque. Ça, c'est...
François Carré, Chantal nous dit « quid du lien entre la marche et l'aide au traitement de la dépression ? Un médecin me le conseille », dit-elle. Alors là aussi, il y a des études très précises.
Ah oui, il y a des études très précises. On a des études qui ont montré qu'effectivement, on pouvait diminuer, voire arrêter beaucoup de traitements antidépresseurs. Et d'ailleurs, pas mal de spécialistes disent qu'il faudrait d'abord essayer l'activité physique avant de se précipiter. Et il y a même une étude très récente, d'ailleurs à l'hôpital Sainte-Anne, j'ai découvert, il y a un travail avec les schizophrènes et les autistes aussi. Bien sûr, c'est pas pour empêcher d'être schizophrène ou autiste, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça veut dire que ça permet une réinsertion beaucoup plus importante par l'activité physique.
Ouais. Sur le cancer, là aussi, des études liées à la sédentarité.
Oui, le cancer est très net, c'est très net. Là, il y a une dernière étude qui concerne quand même que 1,4 million de patients, donc c'est quand même pas rien non plus. Et là, il montre que dans 13 cancers, on a une diminution de la survenue du cancer. Et dans le cancer du sein, on sait que l'activité physique diminue pratiquement de moitié le cas de récidive des cancers quand on continue l'activité physique après le traitement.
Dernière question très rapide, Sam Cohen. Anne dit, lorsqu'on travaille sur un ordinateur, est-ce qu'utiliser une grosse balle de fitness comme chaise de bureau peut aider ? Il faut le supporter toute la journée, par contre.
Je ne suis pas sûr qu'au niveau de la concentration, ce soit si bien que ça. Mais par contre, effectivement, de temps en temps, lever les fesses du siège en tendant ses bras, contracter son ventre, rentrer son ventre, serrer les fesses, tendre une jambe et puis l'autre, faire des circumductions des épaules en avant, en arrière, s'étirer les bras au-dessus et derrière la tête, c'est des bons moyens de diminuer la fatigue et de garder une posture digne.
Et de garder son corps de jeune homme, comme le fait Fabrice Drouet. Rouelle à votre gauche. Merci beaucoup à tous les deux. François Carré, Danger, Sédentarité, c'est toujours disponible. On peut le trouver sur Internet, aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup à tous les deux. Fabrice, bonjour.
Bonjour, attendez, je m'étire.
Mais oui, voilà. Vous pouvez parler en même temps, ça ne se verra même pas.
C'est vrai. Bon.
Quel sera le sujet d'affaires sensibles tout à l'heure?
Un film, Les Amants du Pont Neuf, et surtout les coulisses du film. Ça fait une affaire incroyable, on avait peur qu'ils sortent, il n'y a pas de budget. Puis c'est la malédiction, Léo Scarax. Et nous en parlerons avec notre invité Serge Kaganski, journaliste et spécialiste de rock et de cinéma aux Inrock.
Eh ben, tout à l'heure.